هذه في خاطر جميع الحباب اللي حاضرين معنا, خاطر يا ابو زيان اللي راك معنا. سلام معنا شدوا بنتكم عينها كحلة تبصر فيها شدوا
Bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Avec vous ce soir, Lamine à la technique et à l'animation. Nous allons essayer de passer avec vous une belle soirée, un samedi parmi d'autres, un samedi qui nous rappelle qu'on est au Québec et que le soleil est encore loin de nous. Taxi Maghreb va rester avec vous jusqu'à minuit. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Madame Dunia Bouzard, donc qui est connue dans le sur toutes les questions qui ont relation avec l'islam en France, présente dans le débat depuis des années par ses réflexions, par ses articles, par ses livres aussi, et par sa participation entre autres au Conseil du culte musulman, puisqu'elle a été membre de ce conseil dans les années 2000, donc 2000-2003. Et d'autre part, je rappelle que notre invitée, Madame Dunia Bouzard, est au Québec dans le cadre d'une invitation qu'elle a reçue du symposium sur l'interculturalisme qui a été organisé par Monsieur Bouchard durant les trois derniers jours, donc mercredi, jeudi et vendredi. Parmi les livres de notre invité, donc on nommera entre autres plusieurs réflexions donc à travers des livres, et on va citer un de ces livres qui est l'une voilée l'autre pas, un autre livre sur les banlieues françaises, c'était en 2001 aussi, l'islam des banlieues. On sait très bien qu'en France la question des banlieues est une question reliée à l'islam, bien que dans les banlieues on peut retrouver aussi d'autres choses que l'islam. Et un des objectifs de notre émission ce soir avec notre invité, c'est de parler de cet islam en France, de l'islam en Occident en général, puisqu'on va revenir au Québec, et surtout du dernier débat, puisque l'islam est devenu le cœur du débat politique électoral en France depuis les dernières années, on peut dire depuis la dernière année, où plusieurs lois ont été légiférées par le Parlement français, ce qui concerne des choses qu'on peut considérer faisant partie de l'islam ou non, comme la question du niqab dernièrement et la question du voile depuis quelques années. Pour notre émission, comme d'habitude, donc vous aurez aussi l'occasion de participer avec nous au 514-495-2597. Tout cela va se faire avec vous au 102.3 FM. Nous allons commencer avec notre invitée, donc Madame Bouzard, bonsoir.
Bonsoir.
Et premièrement, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On sait très bien que vous êtes venu pour une très courte durée, et ça nous fait plaisir de vous recevoir à notre émission Taxi Maghreb pour partager avec nous au studio, mais aussi avec tous les auditeurs de Taxi Maghreb, vos réflexions sur l'islam en général, et bien sûr en particulier l'islam en France, et peut-être faire des parallèles avec ce qui se passe ici au Québec, puisque l'islam est devenu aussi un sujet de débat électoral, les élections de provinciales où des partis politiques ont essayé de ramener la présence de la communauté musulmane ici au Québec comme un sujet de débat électoral. Première question un petit peu générale, de loi qu'est-ce qui se passe avec l'islam de France, l'islam qui était qui est deuxième religion en termes de nombre, mais ouais. qui n'était pas presque présent dans les débats dans les années 80 où était présent d'une façon directe, est devenu le cœur du débat électoral et politique en France.
Ben, je crois on est un peu dans un paradoxe en France, parce que justement il y a 20 ou 30 ans c'était la deuxième ou la troisième génération, ou en tout cas la génération des parents, et la génération des parents ou des grands-parents, elles se sentaient pas encore chez elles, elles se sentaient de passage, alors elles étaient très discrètes, c'était une génération très discrète qui acceptait encore de prier dans les caves, de pas avoir de pas pratiquer leur islam parce qu'ils savaient qu'ils allaient rentrer chez eux. Et puis là, paradoxalement, la génération en France, elle est née complètement, massivement en France, et elle est complètement intégrée, c'est-à-dire que on commence à voir arriver de plus en plus de jeunes de référence musulmane, hein, donc ça, au sens large, dans les grandes écoles, qui commencent à rentrer dans les grandes écoles de commerce, dans les grandes facultés, etc., et qui veulent pas laisser tomber leur islam, c'est-à-dire qu'en même temps, ils sont complètement au cœur de la société, mais ils veulent rester pratiquants. Et là, tout d'un coup, ça éclate. C'est-à-dire que cette visibilité, tout d'un coup, c'est comme si la France s'apercevait que elle découvrait ces musulmans, alors qu'ils sont là depuis 3, 4, 5 générations. Mais tout d'un coup, cette visibilité éclate. Alors, il y a la manipulation politique bien connue qui vient se greffer dessus, qui est divisée pour mieux régner et désigner un ennemi pour faire peur aux gens et évidemment gagner les élections. Mais c'est vrai que au-delà de la manipulation politique, on pourrait quand même se poser la question pourquoi ça marche, parce qu'effectivement le discours politique marche là-dessus, quels que soient les partis, et ça devient un objet politique.
Il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, la France recevait une immigration musulmane essentiellement maghrébine, oui. Des gens qui venaient en général des milieux ruraux, qui étaient dans la pratique de tous les jours, donc avec une tendance traditionnelle, qui étaient musulmans, qui pratiquaient l'islam. Et aujourd'hui, le problème ne se posait pas. Et aujourd'hui, on a des Français qui sont de culte de religion musulmane. Oui. Est-ce que c'est l'islam d'aujourd'hui qui est plus provocateur ? Est-ce que la société française aujourd'hui est plus ou moins tolérante ? Ou est-ce que tout simplement le contexte international fait en sorte que l'islam devient un problème ?
Je crois qu'il n'y a jamais une cause, un effet. C'est vrai qu'on peut pas mettre de côté ce qui se passe avec ce qui s'est passé le 11 septembre ou des choses comme ça. Bien sûr que ça a compté, mais au-delà de ça, je pense vraiment que on a considéré l'islam comme la religion de l'étranger en France. Donc on l'a toléré parce que c'était les autres. C'était nous et les autres, et les autres c'était les musulmans qu'on tolérait parce qu'ils venaient de loin, etc. Et puis là, le fait finalement qu'ils habitent plus dans les mêmes immeubles, qu'ils commencent à rentrer dans les postes à pouvoir, moi je pense vraiment que ça... Il y a plusieurs choses. Ça interroge que quelqu'un puisse faire des études et continuer non seulement à croire, mais en plus à pratiquer. C'est-à-dire le summum des réactions en France, c'est quand ils voient un très bon étudiant et puis que tout d'un coup ils se rendent compte que cet étudiant est resté très lié à l'islam, que non, il va pas boire de vin, que de temps en temps, il ose dire que oui, il fait ses prières, ils ont l'impression que l'intégration n'a pas été réussie parce que, comme si dans les représentations françaises, il aurait fallu laisser l'islam à la frontière pour devenir vraiment quelqu'un qui pense. Il y a comme une incompatibilité entre croire et penser dans l'inconscient français, en tout cas.
Et être français.
Et bien sûr, être français.
Mais vous êtes quand même une des spécialistes des religions en France, donc au niveau d'anthropologie des religions. Mais est-ce que, si on revient aux Français, c'est de souche, oui. Ou des Français
plus français que les autres.
Exactement, qui ont quand même un background culturel catholique. Est-ce que eux, ils sont débarrassés réellement de cette foi pour tout simplement devenir des êtres humains penseurs sans foi, ou est-ce que en réalité ils se rendent pas compte qu'ils restent encore dans leur comportement, dans leur réflexe des choses de la religion catholique? Et là, on reviendrait à la question, est-ce qu'ils considèrent que la seule religion qui a un problème avec la modernité, c'est l'islam?
Alors, là aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est-à-dire que on a justement. Ce qui est bizarre, c'est que dans la Constitution du Canada, si j'ai bien compris, il y a la primauté du droit divin. Donc on ne peut pas dire que vous avez la même laïcité que nous. Et pourtant, dans les premières décisions, vous avez déjà la Cour suprême, si j'ai bien compris, qui a déjà reconnu, il y a un certain nombre d'années, que les normes du Canada, c'est-à-dire le dimanche, jour férié ou Pâques, c'était des normes qui étaient issues de l'histoire chrétienne. Donc il y a eu cette reconnaissance quand même que les normes sont pas, j'allais dire, sont pas tombées du ciel.
Ils sont pas neutres.
Que les normes sont pas neutres, qu'elles sont, ce qui est tout à fait normal dans un pays comme dans un pays musulman, les normes sont issues de l'histoire musulmane, c'est tout à fait normal. Mais la France, qui se veut absolument laïque, ne veut pas reconnaître ça. Donc c'est vrai que c'est comme si la France, par exemple, en France, l'une des grosses choses qui vont heurter les musulmans, c'est qu'on va présenter Noël comme si c'était une fête qui n'était pas chrétienne, que c'était une fête laïque, c'était une fête traditionnelle. Et les musulmans disent, écoutez, on veut bien fêter Noël traditionnel avec vous comme une fête traditionnelle de manière culturelle, mais autorisez-nous à fêter un laïd pour tous avec vous aussi. Et il n'y a pas de raison, puisque maintenant la France, elle a des gens qui sont juifs et musulmans, il n'y a pas de raison qu'on fête Noël avec vous et que vous ne fêtiez pas laïd avec nous. Donc, ce qui se passe aussi en France, qu'on n'a pas donné comme élément qui est très important, c'est que les jeunes maintenant connaissent les lois de la laïcité. Et donc, on ne peut plus leur dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont étudié la Constitution française, ils ont étudié la fameuse loi qui s'appelle la loi de 1905 en France, qui gère toute la laïcité, et ils se sont rendus compte que ce n'était pas une loi qui empêchait les religions, mais bien au contraire, qui garantissait la liberté de conscience tant qu'elle n'empiète pas sur celle de l'autre. Mais qu'ils avaient le droit d'être musulmans à part entière. Et du coup, ils ont revendiquer leurs droits. Et ça aussi, c'était nouveau dans le contexte français.
Mais est-ce que beaucoup de, je dirais, d'intellectuels français considèrent que ce retour à l'islam, entre guillemets, de la deuxième et troisième génération, ils le considèrent comme étant un danger dans le sens où c'est un retour réactionnaire. C'est pas un retour... est-ce que la réalité... je tiens à mentionner aussi que Madame Denis Abouzard a été éducatrice, donc elle a eu à avoir contact avec les banlieues et la communauté musulmane, entre autres, avec d'autres communauté aussi. Est-ce qu'on peut dire que ce retour à l'islam au sein de la deuxième, troisième génération chez les beurs, comme on les appelle en France, est un retour réactionnaire de protestation, ce qui pourra faire peur aux autorités françaises ou aux Français en général, que c'est vraiment pas un retour au religieux dans le sens religieux spirituel, mais plutôt dans le sens réactionnaire et révolutionnaire?
J'ai envie de dire que là aussi, il y a de tout. Vous avez toute une tranche de génération, toute une partie de la jeunesse qui, à un moment donné, au départ, les grands frères ont demandé, ont voulu dénoncer les discriminations. Ça, c'était dans les années 80. Il y a eu une fameuse marche qui s'appelait justement la marche pour l'égalité, mais que les médias ont appelé marche des beurs, justement pour faire croire que c'était un problème culturel, mais en fait, c'était une revendication sociale, c'est-à-dire c'était des jeunes qui ont traversé la France à pied pour voir le président de l'époque, qui était François Mitterrand à l'époque, et pour dire on a 40% de discrimination quand on s'appelle Mohamed et avec un bac plus 5. Donc rétablissez nos droits. Et ça n'a pas été assez travaillé. Donc les petits frères de cette génération, ceux qui sont nés un petit peu après, c'est vrai que eux, il y a une partie d'entre eux qui ont surinvesti l'islam, qui ont été un peu, comment dire, déçus de la politique, qui ont perdu espoir dans les hommes politiques et qui ont un petit peu surinvesti l'islam en termes de l'islam à la solution à tout, y compris en termes de constitution et de justice sociale, mais au-delà de la religion, un peu comme système social. Ça a eu existé, bon, mais c'était pas révolutionnaire du tout. C'était des jeunes en perte d'espoir qui se sont raccrochés à l'islam pour continuer à survivre. C'était pas un mouvement, bon. Et c'est pas ceux-là qui ont été embêtés, paradoxalement. Après, vous avez au contraire toute une tranche de la jeunesse qui, parce qu'elle a grandi avec les autres, parce qu'en France, on est quand même à l'école maternelle, obligé de se mélanger avec des autres enfants qui sont pas musulmans, qui au contraire ont eu besoin de se dire, mais comment ça se fait que nos parents ont été discriminés, maltraités, et que nous encore, on est encore discriminés, et qui sont un peu retournés au Coran, non pas par révolte du tout, mais pour se dire qui je suis vraiment, d'où je viens vraiment, et qui ont voulu se réapproprier le texte du Coran pour eux-mêmes se refaire du sens dans leur vie de manière tout à fait positive, et pour au contraire mieux se donner la force de vivre et de se mélanger, de construire leur vie. Et c'est presque ceux-là qui sont embêtés parce que justement, ce dont je parlais tout à l'heure, une cadre supérieure dans une grande entreprise de beauté va arriver avec un petit foulard pourtant très francisé, hein, le petit foulard Hermès, et puis tout d'un coup, les gens vont se dire, mais comment ça se fait qu'elle soit cadre supérieur et qu'elle ait le foulard, elle est donc manipulée par un projet politique. Ça semble irréaliste que par exemple quelqu'un de par sa propre volonté veuille rester pratiquant, donc il y a toujours cette suspicion qui revient, comme quoi soit c'est quelqu'un qui est manipulé par l'extérieur, soit c'est quelqu'un de manipulé par sa famille, en gros, surtout quand il s'agit d'une femme. On a un gros souci avec les musulmanes pratiquantes.
Par rapport à ce débat qui est relancé une autre fois sur la laïcité en France, après des années, même on peut dire des siècles, que la France est entrée dans un processus de laïcisation à travers des lois, essentiellement la loi de 1905, c'est quoi les enjeux actuellement à court terme? Est-ce que vraiment la France a besoin d'encore légiférer pour protéger sa laïcité, ou est-ce que il y a un enjeu tout simplement, pas d'intégration, mais un enjeu de cohésion sociale, qu'une partie de la France se sente réellement intégrée, pas seulement par ses efforts d'intégration, mais aussi par l'effort de tous les Français pour considérer les musulmans comme faisant partie de la France?
Ben oui, il faut. Moi, je pense que au lieu de faire des débats sur la laïcité comme ils veulent essayer de faire tout le temps, il faudrait qu'ils commencent par former les élus pour qu'ils appliquent la loi de 1905. C'est-à-dire que sur le terrain, on voit bien que pour quand il s'agit de l'islam, la loi n'est pas appliquée. Et si on appliquait la loi, ça ferait vraiment un traitement pratiquement égal sur tous les plans. Les mosquées, il y a l'administratif est bien fait pour qu'on puisse construire les mosquées. La question de l'alimentation pourrait être réglée aussi. Il y aurait des solutions pour chaque chose s'il n'y avait pas des représentations négatives quand il s'agissait de l'islam, et que finalement souvent les managers des entreprises ou les élus, eh bien ils n'appliquent pas la même grille quand ils ont un musulman en face, parce qu'ils ont les représentations négatives du débat public parasites, et ils deviennent discriminants, j'ai envie de dire presque malgré eux. Parfois, c'est-à-dire moi je rencontre des gens qui finalement je me rencontre n'étaient pas finalement de mauvaise volonté, mais avaient vraiment des certitudes sur le fait que si la personne est musulmane, elle peut pas avoir telle ou telle compétence, ou vraiment des certitudes ancrées. Et quand on les fait réfléchir, en fait après ils ont honte et ils s'en rendent compte. Mais c'est vraiment général. Et donc au lieu de faire des lois, il faudrait déjà que la France commence par appliquer ses lois. Et après, une fois qu'on aura appliqué les lois, on pourra discuter s'il manque quelque chose ou pas. Et c'est ce que les musulmans réclament. Les musulmans en France veulent que les élus appliquent la loi pour eux comme pour les autres citoyens français. Après, on pourra réfléchir à s'il y a besoin d'autre chose.
Merci, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Nous parlons aujourd'hui de l'islam en France, mais on va parler aussi de l'islam au Québec et de l'islam en Occident. Notre invitée, donc Madame Dunia Bouzard, anthropologue des religions et, comme on l'a déjà présenté, personne très active au niveau intellectuel et de terrain en France. On prend une pause publicitaire et on revient juste après la pause.
Venez chez Lidor.
L'endroit à Montréal où vous procurez les matelas orthopédiques en exclusivité. Les vrais, les originaux, faits au Québec. Chez Lidor, ils sont simplement des spécialistes du matelas à des prix qui ne vous empêcheront pas de dormir.
Venez voir l'expert Lidor.
Oui, venez chez Lidor. Comparez et jugez. L'expert en matelas, c'est Lidor. 65 52 Boulevard Saint-Laurent, juste au nord de Beaubien. www.lidor.com.
Les rencontres berbères de Montréal, un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville.
Facebook Radio Centre-Ville Aubaine. Facebook Radio Centre-Ville Aubaine.
Vous avez un profil sur Facebook? Êtes-vous intéressé par les aubaines? Sur Facebook, recherchez la page de Radio Centre-Ville. On a des offres intéressantes pour vous. Des produits et des services à super bon prix. Les sommes amassées servent à financer votre radio.
Facebook Radio Centre-Ville Aubaine.
Cherchez-vous un travail immédiatement? Travailglobal.com. Appliquez aujourd'hui, travaillez demain. Travailglobal.com ou 514-666-1562. Secrétaire, journalier, manufacturier, voyez les emplois sur travailglobal.com ou 514-666-1562.
Vous avez une soif inaltérable de savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville nous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.
Taxi Maghreb, notre invitée ce soir, donc Madame Dounia Bouzard, je rappelle, anthropologue des religions, auteur de plusieurs livres sur l'islam, essentiellement en France, ex-membre du Conseil français du culte musulman qui a été mis en place par le président actuel Sarkozy, mais il était ministre de l'Intérieur. Et aussi, je tiens à mentionner que Madame Dounia Bouzard a été mise dans la liste des héros européens de Times Magazine, entre autres, une personne qui s'est engagée sur le débat. Sur l'islam en Europe, mais qui a une relation directe avec la présence de la communauté musulmane en Europe, puisque il s'agit essentiellement de la communauté. L'islam en tant qu'islam, je pense pas qu'il ne soit pas vraiment un sujet problématique. On parlait juste avant la pause publicitaire sur, ce dilemme les raisons objectives ou subjectives de ce débat autour de l'islam, essentiellement en France, de la laïcité. C'est comme si la France était calme dans sa laïcité, était stable dans sa laïcité plutôt. Et là, il y a un problème, mais les Français ont peur pour la République et pour la laïcité. Si on essaie de faire un parallèle avec ce qui se passe au Québec, la situation est différente. On parle d'une première génération qui s'installe dans un pays d'immigration composé essentiellement des migrants, puisque l'Amérique du Nord, c'est un pays, et donc tous les pays de l'Amérique du Nord sont constitués essentiellement d'une nouvelle immigration. Quand on parle des Italiens, des Grecs, des Juifs, même des Français qui forment, la communauté principale du Québec, c'est des immigrants. Il y a ceux qui ça fait 4 siècles, il y a ceux qui ça fait 50 ans, il y a ceux qui ça fait 10 ans. L'arrivée de l'immigration maghrébine, entre autres, a ramené le débat sur l'islam, sur le voile, entre autres, au niveau de l'école, au niveau des lieux de travail, la question du ramadan, la question des lieux de prière dans les écoles. On a passé presque 3-4 ans de débat où le Québec était perçu, le Canada comme un pays d'accueil des immigrants, a transmis une image un petit peu différente. La seule différence, et c'est là où la question se pose, c'est que Ici, on parle d'une première génération qui vient s'installer et on peut dire qu'il y a une tendance dans, au sein de la communauté qui demande aux gens d'être un peu plus discrets. Les gens, même les musulmans, demandent à d'autres musulmans de ne pas demander un lieu de culte ou un lieu de prière dans une école. Il faut éviter de le faire pour ne pas provoquer le débat. On demande aussi aux personnes qui pratiquent l'islam d'essayer d'être plus discrètes dans leur pratique de l'islam de façon à ne pas susciter le débat et ne pas provoquer la suite d'accueil à des réactions négatives. Ce qui est intéressant dans le débat en France, c'est qu'on ne parle pas de nouveaux arrivants, on ne parle pas de personnes qui viennent s'installer, c'est des Français qui sont nés, de pères français, puisque leur père ou leur mère sont nés en France, et peut-être leur grand-père aussi.
Absolument.
Et on a encore le même problème.
Oui.
Ma question, c'est, en fin de compte, si la première génération, et je pense que c'était le cas des Maghrébins essentiellement en France, a été discrète, ça n'a pas résolu le problème.
Bah, non seulement ça n'a pas résolu le problème, mais ça l'a même retardé, parce que du coup, les gens avaient l'impression, en fait, l'image que les Français dits de souche ont gardée, c'est que les parents étaient intégrés, parce que les parents étaient invisibles. Le monsieur qui rentrait de l'usine, il mettait sa djellaba pour se reposer un peu, puis pour sortir ses poubelles, par respect pour ses voisins, il allait remettre son costume de ville pour sortir sa poubelle, parce qu'il voulait pas son hôte. Le jeune d'aujourd'hui, il est français à part entière, il a même une mentalité de culture française, j'oserais dire, il a appris à dire je, c'est plus le clan qui définit ce que l'islam dit, c'est je vérifie ce que l'islam dit. Il a les travers aussi des français, il a grandi, il regarde les mêmes films, il écoute la même musique que les autres copains français, et avec ça il a envie de rester musulman, et il estime qu'il a pas de choix à faire entre la nouvelle culture qui s'est forgée et sa religion, et que il peut être à la fois français et musulman, ce fameux terme qui est vraiment très juste, et donc c'est ça qui les Français dits de souche n'ont pas du tout compris, que par exemple les mamans sont arrivées sans foulard la plupart, parce que c'est vrai que dans les pays d'origine c'était presque, elles s'étaient battues parce qu'à un moment donné on les a obligés à porter ces foulards pour des tas de raisons qu'on connaît. Et les Français ne comprennent pas que les jeunes filles qui ont fait l'école de la République, qui ont grandi avec les autres copines, revendiquent elles-mêmes de porter un foulard. Et quand les jeunes filles disent mais c'est pas du tout un foulard de soumission, c'est pas du tout un foulard politique, c'est au contraire pour nous un appui, parce qu'on se sent en relation avec Dieu en cachant nos cheveux, et ça nous aide à affronter plein de choses, à faire le lien entre notre passé, notre futur. Voilà le sens qu'on donne à notre foulard, c'est pas du tout, vous inquiétez pas, on n'est pas enfermé, on est libre, etc. Bon, mais ça heurte effectivement tout. Je pense que dans les sociétés occidentales, il y a quand même l'idée que les gens vont abandonner leur religion en s'intégrant. Et quand tout d'un coup, ils voient des gens qui rentrent pas dans ce schéma-là, ils ont le sentiment que les gens sont pas intégrés. Mais ces jeunes sont hyper intégrés. Ils ont complètement acquis des tas de valeurs, je vais dire, portées par la Constitution française, y compris le respect de pas entraver la liberté de conscience des autres. Alors je parle pas des groupuscules radicaux là. Je parle des jeunes qui vont bien, qui sont dans les grandes écoles, ou tout simplement qui sont à la fac, ou tout simplement qui sont ouvriers secrétaires, mais qui sont bien dans leurs baskets, hein, comme on dit. Bon, après il y a ceux qui vont mal, dont on parlera tout à l'heure, mais ceux qui vont bien, ils sont à la fois j'ai envie de dire vraiment de culture française maintenant, et de confession musulmane, et parfois pratiquant musulman, ne veulent pas faire de choix. Ça éclate au sein de la société française au bout de 3-4 générations, parce que jusque-là, je crois que cette obligation de discrétion, et les gens, par ignorance, restaient dans cette obligation, puis avaient peur qu'on leur retire leur visa, connaissaient pas la loi française, pensaient que la laïcité, c'était l'interdiction de pratiquer sa religion sur le sol français. Hein, c'était aussi une croyance des parents. Et les jeunes veulent tout simplement qu'on les traite comme des citoyens à part entière, ça c'est très clair.
Donc en fin de compte, la crise ou le comportement de ces Français musulmans vient de leur d'intégration aux valeurs françaises.
Moi, j'en suis persuadée.
C'est vrai que dans notre culture des pays d'origine, le hachma, j'essaie de ne pas déranger l'autre, la personne doit faire des concessions vis-à-vis du groupe.
Oui, je suis complètement, j'en suis persuadée. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée l'été dernier parce que c'était trop drôle. Ça a été Ramadan au mois d'août et tous les Français sont partis en vacances et il y avait quelques musulmans qui ont encore des ancêtres dans les pays d'origine, donc qui partent encore faire la bise à l'arrière-grand-mère, à l'arrière-grand-père, etc. Et tous les journalistes m'ont appelé le même jour, le début du Ramadan, le premier jour du Ramadan, en me disant: mais Madame Bouzard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent tous en France pour faire le Ramadan. Pourquoi ils en profitent pas? Puisque le Ramadan se passe pendant les vacances, pourquoi ils en profitent pas pour faire le Ramadan dans les pays musulmans? Mais qu'est-ce qui leur arrive à revenir à Paris pour faire Ramadan? Ah, j'ai dit, ben voilà, vous allez comprendre, ils sont pas en vacances à Paris, c'est leur pays, Paris. Ils sont chez eux, donc pour
et
faire
le Ramadan, on le passe chez nous.
Ils ont besoin d'être chez eux, d'avoir leur repère. Et puis il y a autre chose, c'est qu'ils supportent pas le regard du clan, le contrôle du clan que des fois dans les villages traditionnels ils ont. Eux, c'est entre eux et Dieu parce qu'ils ont un rapport individuel. Ils ont aussi cet aspect français maintenant de un peu l'individu, hein. Et ils détestent qu'on vienne leur contrôler s'ils mettent du déodorant ou pas. Ils se disent, c'est entre moi et Dieu, et j'ai pas envie que l'arrière-tata elle vienne me contrôler. Et alors ça, les journalistes ne comprenaient pas. Donc encore mois d'août dernier, les journalistes étaient étonnés que les Français de confession musulmane rentrent chez eux en France pour faire le Ramadan, parce qu'ils les voient encore comme des immigrés au bout de la quatrième ou cinquième génération. Donc je pense que plus vite on va à dire on est des citoyens du pays où on habite, on connaît les lois et on ne demande pas plus que les autres, on demande la même chose que les autres, mais laissez-nous vous mélanger à vous, parce que vous verrez qu'on n'est pas des monstres, on n'est pas des aliens et on veut juste la même chose que vous, même si c'est pas le même prophète et on n'est pas aussi différent que ce que vous croyez. Plus vite on va là, si je dois donner mon avis, plus vite on gagne en termes d'égalité, de déconstruire les représentations négatives, parce que c'est quand même pas par les grands discours et les grandes théories qu'on déconstruit les stéréotypes négatifs, c'est vraiment parce que j'appelle la transpiration humaine, c'est se mélanger, faire les choses ensemble.
Si on vient un petit peu au niveau du terrain, essentiellement dans les banlieues françaises, de loin, je connais beaucoup de maghrébins qui ont décidé à un certain moment donc d'immigrer en Occident en général, tout le monde a peur de l'expérience française. L'expérience française en termes d'immigration, je parle dans le cas de la communauté maghrébine, est perçue comme un monstre où on perd l'éducation des enfants, il y a des problèmes, les enfants ne sont ni français, ni maghrébins, ni je dirais européens, ni maghrébins aussi. Et on parle aujourd'hui essentiellement des médias en France, ils parlent d'une présence de mouvements extrémistes au niveau des banlieues françaises qui sont en train d'imposer leurs lois au détriment de la loi de la République. Est-ce que la réalité que vous connaissez du terrain est aussi dramatique que ça?
Non, alors heureusement c'est pas aussi général du tout, mais c'est vrai qu'il existe parmi les enfants des banlieues, on a quand même quelques jeunes qui effectivement, je vais dire ça, sont sans père ni repère, sont sans foi ni loi. C'est-à-dire qu'ils ont un peu... Il y a eu des représentations quand même très négatives en France sur les émigrés du Maghreb après la guerre d'Algérie, hein, faut être clair. Et je pense quand même que on a enlevé leur autorité au papa. C'est-à-dire les travailleurs sociaux, quand ils sont arrivés en banlieue, avaient tellement une représentation de l'arabe comme quelqu'un quand même de violent, de dur avec les femmes, de dur avec les enfants, que je pense qu'on a fait des erreurs dans le traitement, dans le traitement social, et que les papas se sont retrouvés des papas qui pouvaient plus être des papas. Alors en plus de ça, les papas qui sont arrivés dans les premières générations, c'est eux les premiers qui ont été touchés par la crise du chômage, parce que on les a fait venir pour les mines et les industries du textile, et quand il y a eu la crise économique, c'est les mines et les industries du textile qui ont été fermées les premières. Donc c'était les premiers à se retrouver au chômage. Or, Quelqu'un qui venait d'Algérie et qui choisissait d'émigrer en France, c'est autre chose que d'émigrer au Canada ou en Italie, et c'est aussi autre chose que l'émigré italien qui vient en France. C'est-à-dire que il y a un moment donné où le père de famille qui s'est battu dans son village pour pas qu'on impose la langue française, il choisit que son propre fils il soit socialisé en français. Et tout ça, c'est pour avoir une vie meilleure. Hein, l'émigration, c'est toujours pour avoir une vie meilleure. Et quand, au bout de 3-4 ans, pouf, il tombe au chômage, c'est pas que des conséquences économiques, c'est la conséquence de la place du papa dans la famille. C'est-à-dire que inconsciemment, la famille se dit, mais pourquoi venir vivre dans le pays de l'ancien colonisateur si finalement, non seulement on n'a pas une vie meilleure, mais on habite des immeubles délabrés, on est tous marron clair ou marron foncé, on n'a pas la même éducation. Donc les enfants, ils ont grandi avec ce questionnement. Les travailleurs sociaux ont mal géré, parce qu'il y a eu cette histoire aussi qui a beaucoup compté, je pense, où avec les représentations négatives de l'homme arabe, ils donnaient systématiquement toutes les allocations aux mamans. Donc les allocations familiales, comme il y avait souvent beaucoup d'enfants, les mamans se retrouvaient avec un sacré budget et l'éducateur disait surtout il faut rien montrer à votre mari, comme ça vous êtes indépendante, comme ça on sait jamais. Bon, donc c'était vraiment la tendance et donc les papas se sont retrouvés sans autorité. Alors effectivement, je vais en venir au groupuscule, mais c'est juste pour montrer l'historique. On a des enfants qui du coup n'ont pas eu d'autorité, n'ont pas appris le nom que tout enfant doit apprendre, hein, et en plus qui ont joué des représentations, c'est-à-dire que il dit au prof, le dis pas à mon père, si vous savez, mon père, il va m'enfermer dans la cave, il va me taper. Donc il va jouer des représentations négatives du prof raciste sur le père, mais il va aussi dire à son papa, va pas voir mon prof, si tu savais comment il est raciste celui-là. Donc il échappe à l'autorité du prof et il échappe à l'autorité du père. Tout ça à cause du non-dit, suite à la guerre d'Algérie, etc. Et du coup, on a effectivement dans quelques jeunes qui vont très mal dans le sens où effectivement, ils ont ni foi ni loi. Et ces gamins-là, qui sont paumés, qui effectivement n'ont pas de culture, c'est pas qu'ils sont pas intégrés, il faut arrêter de dire des bêtises, c'est pas qu'ils sont pas intégrés, c'est qu'ils en ont pas de culture. Ils ont grandi comme des particules virtuelles. Et ces gamins-là, effectivement, quand il y a une espèce de prédicateur autoproclamé, soi-disant prétendu salafiste, qui arrive, qui des fois connaît que deux ou trois versets, et des fois même est un ancien caïd d'autres choses, hein. On a ça dans les banlieues françaises, et ben effectivement il y a des cités où ce type de gamin, sans foi ni loi, il a le choix entre deux choses. Soit il rentre dans une bande de grand banditisme pour exister, pour être quelqu'un, soit il rentre dans un groupuscule radical. Ça, c'est une réalité de quelques immeubles. Et on peut pas ne pas en parler parce que elle est comment dire, c'est une toute petite minorité, mais c'est bien qu'on puisse en parler ici. Vous voyez, je ne sais même pas si je le dirais en France, parce que les politiques s'en serviraient. Mais comme on est ici, c'est bien de le dire, parce que s'il y a des travailleurs sociaux qui écoutent, qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs.
Mais c'est vraiment intéressant, parce que je pense qu'on est en train de reproduire ici aussi des situations similaires. On a la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ ici, qui joue un rôle de protéger les enfants quand on considère que les parents ont un comportement qui pourra mettre les enfants en danger. Et il y a des cas qui sont mentionnés au sein des communautés immigrantes en général, on parle de la communauté maghrébine, où je dirais l'écart culturel initial n'est pas pris en considération dans l'analyse des problématiques. Je donne un exemple par abus de langage, en tout cas au Maghreb, on peut dire à quelqu'un, ok, si tu fais pas ça, je vais te tuer, mais on ne pense jamais à faire l'acte, parce que ça c'est juste... Et ça c'est pris en considération ici comme étant une menace formelle et que des décisions sont des fois prises pour isoler un enfant de ses parents sur la base d'une déclaration qui a été décontextualisée de l'aspect culturel.
Oui.
Et je trouve vraiment très intéressant que vous ramenez ce point-là parce que au sein de la communauté, au sein de la société québécoise, je pense que des éléments comme ça de l'expérience française pourront éviter des problématiques pour le futur. Par rapport à la question, maintenant on a parlé un petit peu des courants extrémistes, même qu'ils soient minoritaires au sein de la communauté ou au sein des musulmans français. Si on revient un petit peu au mouvement, disons, laïque, français, extrémiste dans sa revendication, mais qui développe un discours islamophobe, est-ce que, on sait très bien que le Front National prend de l'ampleur en France.
Ouais.
Mais d'un point de vue, je dirais, islamophobie tout court, est-ce que ce courant-là aussi prend de l'ampleur ou ce qu'on voit dans les médias n'est pas représentatif de la réalité française et que les Français qui vivent tous les jours avec des musulmans français ont une réaction, une interaction plus ou moins positive. Je ne parle pas de la question de la discrimination en emploi, mais je parle de la vie de tous les jours. Est-ce que la vie d'un musulman en France est devenue très pénible, même dans son interaction avec ses voisins, avec ses amis, avec au niveau de l'école, à part les cas de, qui ont été médiatisés, comme la question du voile ou autre?
Ça dépend si on a une barbe ou si on n'a pas de barbe, et ça dépend si on a un foulard, une moitié de foulard, si le foulard est long, s'il est complètement francisé ou si on n'a pas de foulard. Je pense que c'est vraiment, on est vraiment, il y a des jeunes femmes qui ont des foulards, Dieu sait qu'elles ont vraiment beaucoup en francisé leur foulard en France, parce que la pression est telle que c'est rare de voir des filles avec des foulards traditionnels. C'est vraiment ce que j'appelle souvent des foulards à la Simone de Beauvoir, donc des foulards portés de manière qu'on voie pas un look de musulmane presque. Hein. Bon, elles font très attention de pas choquer, elles, pas dans le sens d'être discrète, mais dans le sens que l'islam s'est adapté à toutes les cultures, donc le foulard de la Sénégalaise est pas le même que celle de l'autre pays, donc c'est plutôt par fidélité à l'éthique musulmane qu'elles vont faire un foulard à la française. Hein. C'est pas du tout pour être discrète. Et la visibilité de la pratique musulmane est quand même... on a des femmes qui sont refusées quand même des salles d'attente chez les médecins. On a, c'est-à-dire suite à la loi contre les signes religieux à l'intérieur des écoles, il y a des gens qui se sont engouffrés là-dedans pour refuser une femme qui porte le foulard dans une banque, dans une salle d'attente de médecin, bon, dans le domaine du travail. Donc si vous voulez, celles qui portent un signe religieux, très sincèrement, il y en a plein quand on les croise maintenant qui disent ben on commence à économiser, on se demande si on doit pas quitter la France, on sait pas comment ça va tourner. Donc pour que les gens parlent comme ça, c'est qu'il y a quand même une grande souffrance, mais c'est ceux qui ont un signe religieux. Ceux qui pratiquent mais sans l'afficher.
Mais le mois du Ramadan, c'est difficile de le cacher pendant un mois.
Le Ramadan passe bien. Alors ça, c'est mon étude même dans les entreprises. Le Ramadan passait bien parce que même ça, c'est en train de dévier maintenant. Vous voyez, comme quoi, oui, pour répondre en deux mots à votre question, oui, l'islamophobie monte. On va pas tortiller. Oui, ça monte de tous les jours. On a eu un sondage IFOP, là, il n'y a pas longtemps, qui nous ont donné les larmes aux yeux, où on avait 67% des Français et même des Allemands qui pensaient que l'islam était un handicap. Bon, on va pas tortiller, c'est hallucinant. Personnellement, j'ai pas d'explication limpide à vous donner. Je veux dire, moi-même, on était tous sous le choc de. Alors, je sais pas exactement comment ce sondage a été fait, mais en même temps, on le sent quand même tous les jours. Hein. On comprend pas que en plus, on défend vraiment. Enfin, on se sent plus nous, on se sent semblable aux autres Français, plus eux, ils continuent à vouloir nous voir comme des étrangers parce qu'on ne veut pas laisser l'islam de côté. Et on a beau leur dire qu'en plus, on est en train de travailler certaines réinterprétations, qu'on contextualise, ils le savent. Enfin, je veux dire, on essaye d'en parler ouvertement pour ceux qui vont bien. Hein. Alors évidemment, ce comportement islamophobe fait aussi monter les jeunes qui vont pas bien. Parce que pour revenir à la question tout à l'heure, les groupuscules radicaux, ils profitent quand même de cette attitude grandissante négative envers les musulmans pour aller chercher les gamins qui n'ont pas de place, qui n'ont pas d'espoir, pour leur dire quand même, il y a un complot contre l'islam, ce complot, c'est parce qu'ils savent que les musulmans détiennent la vérité, sont supérieurs au monde entier. Toi, tu penses que tu es de nulle part, mais en fait, tu es élu par Dieu, et c'est pour ça que je suis venu te chercher, c'est parce qu'en fait, tu es supérieur au reste du monde, et supérieur à tes parents qui ne sont pas des vrais musulmans. Et donc, il y a tout un discours d'endoctrinement comme comme ça, où ils mettent le gamin en toute puissance, où ils lui donnent l'illusion finalement presque de devenir Dieu, hein, c'est presque ça, c'est je suis Dieu, hein. D'ailleurs, les imams le témoignent, hein, les imams disent, les gamins rentrent en groupe dans les mosquées et disent à l'imam, ta gueule toi, moi je sais ce que Dieu dit, toi, ta gueule. Donc c'est des situations que les imams n'ont jamais vues, qui ont 2-3 ans, donc ça existe quand même.
Mais d'après vous, c'est le discours islamophobe qui encourage,
ah oui,
et qui donne une crédibilité.
Bah bien sûr, parce que ces petits groupuscules improvisés là n'ont plus qu'à reprendre ce qui se passe, les discours des politiques. Là ils n'ont pas arrêté en France, hein. Enfin je veux dire, ça a été on en ferait un sketch de théâtre, ce serait même pas drôle, tellement ce serait répétitif, et je veux dire, ils ont pas arrêté de dire des énormités, donc tous c'est allé très loin, et puis on a des ministres qui ont pris le micro, qui ont dit des choses illégales, je veux dire, pour prendre qu'un exemple, on a eu donc cette loi contre les signes religieux à l'école, où bon, on a trouvé le moyen que ce soit correct au niveau de la Commission européenne des droits de l'homme, c'est passé, et puis tout d'un coup, il y a 2 mois, il y a le ministre de l'Éducation là qui vient de changer, qui prend le micro et qui dit bah j'ai décidé que cette loi s'appliquait pas que aux élèves mineurs, donc l'interdiction du signe religieux, mais dorénavant les mamans bénévoles qui accompagnent les enfants en sortie scolaire, vous savez, quand on va à la piscine, au théâtre et tout ça, et ben les mamans bénévoles vont devoir enlever leur foulard. Alors ça a fait une crise nationale. D'abord c'est illégal, c'est-à-dire la loi mentionne que c'est que les enfants, et c'est certainement pas ni les parents ni les bénévoles ni je sais pas quoi,
ni les voisins
non mais et alors il fait une déclaration illégale comme ça, il y a personne qui dit rien. Et les mamans se font effectivement rabrouer des écoles. Donc vous vous rendez compte ce que les enfants vivent, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Enfin, ils voient la maman à qui on lui dit enlève ton foulard si tu veux venir. Alors les maîtresses d'école se mettent à dire mais il y a plus personne qui va venir, on pourra plus faire de sortie parce qu'il y avait que ces mamans là souvent qui venaient se dévouer pour nous accompagner. Bon, donc voyez, il y a une souffrance quand même. Et les radicaux passent derrière en disant vous voyez, ils n'accepteront jamais que vous restiez musulman. Ils vous ont fait croire qu'il y a une loi, mais vous voyez bien que la loi, ils l'appliquent pas pour vous. Et vous voyez bien qu'ils vous obligent à manger de la viande à la cantine. Vous voyez bien que... Et tout ça est vrai. Donc, bien sûr que le discours sur l'islamophobie alimente effectivement la montée des radicaux, valide même leurs interprétations, parce que l'islamophobie, quand elle parle de l'islam, elle reprend les interprétations de ces groupuscules.
Pour justifier que l'islam est...
Et voilà. Donc en même temps, elle valide la définition de ces groupuscules. Donc vous avez tous les Français qui sont persuadés que l'islam, être une bonne musulmane au pied de la lettre, c'est effectivement porter ce niqab, que la polygamie, c'est tout à fait normal, c'est usuel, que taper une femme, c'est carrément le fondement du... Voilà, c'est toutes ces représentations-là que les groupuscules radicaux, effectivement, promulguent, qui sont repris par les élus. Et nous, en fait, tous les gens, qu'ils soient musulmans ou pas, on est coincés un peu, on est pris en otage.
Mais c'est de plus en plus difficile d'avoir cette position qui critiquerait autant la position de ces groupes minoritaires mais extrémistes dans leur interprétation de l'islam, mais aussi cet islamophobie, puisque vous avez subi vous-même des harcèlements de part et d'autre.
Oui, moi j'ai été menacée à la fois par ces groupuscules soi-disant salafistes et à la fois par les laïcs qui eux sont passés à l'agression matérielle, effectivement. Enfin les laïcars, les fascistes laïcs. Car oui, forcément, parce que c'est ils s'auto-alimentent. Bon, en même temps, quand on est agressé par les deux extrêmes, c'est qu'on travaille bien, on se rassure comme ça. Parce que ce sont des gens qui veulent pas qu'on vive ensemble, les uns et les autres. Ils sont sur le même, ils possèdent la vérité, ils sont supérieurs, ils veulent imposer leur vision du monde. Et, enfin, ils sont un peu exaltés. À mon avis, ça relève plus de la psychologie que d'autres choses. Dans les deux cas, que ce soit par un biais soi-disant laïque, un biais soi-disant musulman. Mais je souhaite pas au Québec d'arriver dans cette situation, parce que c'est vrai qu'elle est quand même, on est en fragilité en France. Hein, on est en fragilité. Oui.
Merci donc notre invitée ce soir, c'est Madame Denis Abouzar, anthropologue des religions qui nous vient de France. On va prendre une pause publicitaire et on revient juste après la pause.
Venez chez Lidor.
L'endroit à Montréal où vous procurez les matelas orthopédiques en exclusivité. Les vrais, les originaux, faits au Québec. Chez Lidor, ils sont simplement des spécialistes du matelas à des prix qui ne vous empêcheront pas de dormir.
Venez voir l'expert Lidor.
Oui, venez chez Lidor. Comparez et jugez. L'expert en matelas, c'est Lidor. 65 52 Boulevard Saint-Laurent, juste au nord de Beaubien. www.lidor.com. Cette fin de semaine, les 28 et 29 mai, c'est la grande vente de garage au profit d'Opération Enfant Soleil chez Remax du quartier entre 8h et 15h30 au 835 boulevard Saint-Joseph-Est. Grande vente de garage, venez faire une bonne affaire tout en appuyant une bonne cause. Tous les profits iront à Opération Enfant Soleil. On vous attend chez Remax du quartier 835 boulevard Saint-Joseph-Est, coin Saint-André, les 28 et 29 mai de 8h à 15h30.
Chez les Sénoufos et les Dioula de Côte d'Ivoire, l'analphabétisme dépasse 70%. À cause des travaux agricoles, les enfants ne vont pas à l'école. Des centres d'alphabétisation sont nés. Il faut doter les classes d'éclairage solaire, car le village n'est pas électrifié et les cours ne peuvent se donner avant 19h à cause du travail des enfants. Le père Pietro Villa, missionnaire de la Consolata, a besoin de votre aide. N'hésitez pas. Composez le 514-334-1910.
Vous êtes à la recherche d'exotisme et de bien-être?
Radio Centreville vous sert un savoureux cocktail musical.
Passez votre commande en consultant notre programmation au www.radiocentreville.com.
Radio Centreville, mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Bonsoir et bienvenue à notre émission, donc l'émission Taxi Maghreb qui est encore avec vous jusqu'à minuit. Et je vous rappelle que vous êtes bien sûr les ondes de Radio Centreville. Ce soir, nous parlons de l'islam en France, de l'islam en Occident en général. Et nous avons le plaisir de recevoir Madame Denis Abouzar, anthropologue des religions en France, ex-membre du Conseil français du culte musulman, intellectuelle et femme de terrain sur la question des musulmans en France et en Europe, et essentiellement sur le débat sur la laïcité et les droits qui sont revendiqués par les musulmans français par rapport aux lois de la laïcité. On va prendre une petite pause, je dirais, sportive avant de revenir avec notre invité, et Karim me rejoint. On ne peut pas faire cette émission sans parler de l'événement du week-end prochain, le match Algérie-Maroc. Bonsoir Karim.
Bonsoir Lamine, bonsoir amis auditrices et auditeurs, bonsoir à Madame Bouzard, bienvenue à l'émission Taxi Maghreb. Oui Lamine, comme tout le monde le sait bien sûr, l'équipe nationale d'Algérie va jouer le match retour à Marrakech contre l'équipe marocaine. Ça rentre dans le l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. L'équipe nationale d'Algérie, comme on le sait, elle est rentrée en stage à Murcia, en Espagne, depuis le 20 mai, je veux dire. Donc les joueurs, ils sont là, ils arrivent un par un, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas fini encore leur championnat respectif. Donc il reste juste deux ou trois joueurs qui vont arriver au plus tard demain, et le stage va finir bien sûr le premier que l'équipe nationale va partir à Marrakech. C'est là qu'elle va encore avoir deux séances d'entraînement
avant le match du 4 juin. L'équipe a joué un match amical hier.
Bien sûr, ils ont joué contre une équipe de 4e division qui a pour nom le Deportiva Minera de Lamo. Puis l'équipe nationale a remporté cette rencontre par le score de 5-0. Bien sûr, on a attendu jusqu'à la 65e minute pour marquer le premier but, qui était à l'œuvre de Guediora. Soudané a marqué le deuxième but. Matmour a marqué deux buts, bien sûr. Et Yebda, il a marqué un but, ce qui fait 5-0. Bien sûr, c'était juste un match d'application, parce que Benchira, il voulait pas avoir un stage sans match d'application, parce que pour changer un peu le programme. Donc, il a trouvé un partenaire, bien sûr. même si c'est de quatrième division, mais le plus important, c'est d'essayer d'appliquer toutes les tactiques qu'il a. Il a changé beaucoup de joueurs au niveau de la défense, au niveau de l'attaque et au niveau du milieu de terrain aussi. Donc, j'espère que le jour J, tout le monde sera prêt, puis Inch'Allah, ça va être un bon résultat.
Et ça va être le samedi 4 juin à Marrakech,
à 21h
heure marocaine,
oui,
donc ça fera 21-5 pour
Montréal.
Pour Montréal. Yatek Saha Karim, merci beaucoup. Bien, bien sûr, Mabrouk Al Barça.
Ah oui, je suis très content, c'est vrai. Ils ont bien joué, c'était un cours de football. Même si Manchester, c'est une grande équipe, mais c'était vraiment un cours de football aujourd'hui.
Excellent, je dirais un cours de géométrie.
Ah oui, c'était de gauche à droite, en avant, en arrière.
Exactement.
Vraiment...
Merci beaucoup Karim donc pour cette pause sportive qui nous a rappelé le match de samedi prochain entre le Maroc et l'Algérie. On rappelle que ce match va se dérouler dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2012. Nous revenons maintenant avec notre invité et le sujet qui tourne autour de l'islam. On a parlé beaucoup un peu de la France. On va essayer un petit peu revenir au Québec et essayer de faire des parallèles. Comme je l'ai mentionné, la communauté musulmane, maghrébine en particulier au Québec, est une communauté très récente. On parle de la première génération, de quelques personnes de la deuxième génération. On parle des problèmes d'intégration au niveau de l'emploi.
Ouais.
Et on parle d'un grand débat d'accommodement raisonnable qui a eu lieu en 2007-2008 où M. Bouchard et Taylor étaient à la tête d'une commission qui a donné des propositions pour adresser cette problématique. La première question que je vous poserai, c'est par rapport aux accommodements. Est-ce que la notion d'accommodement existe en France? Est-ce qu'elle est appliquée? Et quand je parle de son existence essentiellement au niveau juridique, est-ce qu'il y a des communautés qui peuvent avoir des dérogations pour ajustement et pour lever une discrimination qui est causée par la loi?
Non, le système français dans son essence, c'est vraiment de penser que le citoyen est universel et que le traitement doit toujours être le même pour tous. Et le débat sur lequel des fois il faudrait un traitement un peu différent pour arriver à l'égalité, il commence à peine à s'ouvrir et c'est toujours des polémique très hystérique qui démarre très vite, alors ça se referme tout de suite. Du fait que la France ne veut pas reconnaître que ces normes sont issues de l'histoire chrétienne, a du mal à le reconnaître, c'est difficile d'avoir conscience des discriminations indirectes, parce qu'au fond, l'accommodement raisonnable de Bouchard-Taylor, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on réintroduit l'égalité pour des discriminations indirectes. Un juif qui voudrait prendre son samedi, finalement, prendre le dimanche, c'est indirectement discriminatoire. À quelles conditions on peut lui laisser prendre son samedi? Bon, non. Par contre, moi, par exemple, qui suis sur le terrain, j'étais hyper heureuse. Alors, j'ai beaucoup fait rire au colloque hier en expliquant ça. Mais j'étais hyper... On a eu une guerre... à la cantine scolaire des écoles, on a un personnel scolaire qui, des fois, va jusqu'à obliger les enfants à manger de la viande non halal. Et les parents, certains parents, dans certains endroits, se sont durcis et voulaient vraiment que, du coup, ce soit que de la... Ils voulaient de la viande halal. Et introduire la viande halal dans le service public en France, c'était vraiment un bras de fer. C'était contre la conception que les enfants doivent manger ensemble. Alors, on a dans quelques communes pu introduire les œufs et le poisson, ce que j'appelle le plus petit dénominateur commun, et dire, ben voilà, il y a le repas normal, classique, et puis il y a un repas avec tout le temps des œufs et du poisson. Et grâce à ça, on est sorti de la crainte de la guerre civile dans certains quartiers, grâce aux œufs et aux poissons. Mais voilà le type d'accommodement, entre guillemets. Il faut pas prononcer ce mot-là hein, en France. Jamais je dirais ça.
Ni communauté.
Ni communauté, voilà. Voilà le type de élargir la norme en faisant penser aux gens que, tiens, il y a le poisson, il y a les œufs, et comme ça, tout le monde peut manger du poisson et des œufs, puis on parle pas religion, et en même temps, on respecte la différence et la liberté de conscience de ceux qui mangent pas de la viande non halal.
Une des questions qui se pose actuellement, je dirais, au sein de la communauté musulmane, c'est la problématique de réformes nécessaires et des gens honnêtes au sein de la communauté qui se posent la question sur est-ce que aussi avec le bagage, je ne vais pas parler de la religion, du bagage qu'on a ramené avec nous, il y a des choses qui sont de l'ordre culturel, il y a des choses qui sont de l'ordre religieux, il y a dans la religion des choses fondamentales, il y a d'autres choses qui sont pas fondamentales, qui sont liées à l'histoire de nos parents, de nos grands-parents dans les pays d'origine. Est-ce qu'actuellement en France, bien sûr, on connaît des personnalités intellectuelles françaises de confession musulmane, comme Hakoun Larhmo, oui, entre autres,
qui nous a quittés.
Est-ce qu'il y a un effort? Est-ce que la communauté est consciente? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans ce sens-là? Ou est-ce qu'on considère que, ou plutôt, est-ce que le discours islamophobe nous pousse à avoir une réaction, oui, de protection?
J'ai eu un discours avec Monsieur Bouchard là-dessus, parce que j'ai eu une discussion, parce que c'est vrai que ils ont conscience là en ce moment que les accommodements raisonnables ont fait peur aux gens qui les ont mal compris, et que du coup il fallait rassurer un peu les Québécois de souche ou les Canadiens de souche, que l'accommodement raisonnable, c'est pas du tout faire en sorte que les religions vont commander ou faire des droits collectifs sur les religions, et qu'il y avait vraiment des balises, des critères très stricts, etc. Donc, il parlait dans le colloque de la nécessité de rassurer les gens sur ils vont pas perdre leur identité parce qu'on fait des accommodements raisonnables et qu'on laisse quelqu'un manger de la viande ou du poisson, etc. Et moi, j'ai répondu que c'est pareil pour en France, on parle pas en termes de minorité majorité, mais je pense que pour arriver à penser, il faut être dans des conditions d'un minimum de sécurité mentale. Et c'est vrai que si on est toute la journée agressé, on a tendance au contraire à se réfugier, à ne plus penser sa religion, mais à avoir un espèce de mimétisme, des fois même un peu archaïque, parce que c'est de la défensive, parce qu'on est sur les motifs, parce qu'on a mal et qu'on se remet en cocon et qu'on se protège les uns les autres. Donc ça va à l'envers, cette islamophobie. Non seulement elle privilégie les radicaux, elle valide leurs interprétations, mais en plus elle met en insécurité les autres et elle les empêche de penser. Alors on a une ou deux têtes pensantes en France, notamment l'imam Tarek Oubrou à Bordeaux, qui est vraiment une des grandes têtes pensantes françaises, mais c'est vrai que c'est pas facile de suivre parce que les musulmans ont mal, et du coup par exemple on a des jeunes filles qui vont mettre le foulard non pas par une démarche vraiment spirituelle mais pour défendre l'islam, parce qu'elles vont avoir le sentiment que c'est une façon de défendre leur religion, par exemple. C'est juste un exemple.
Merci, on va prendre quelques appels. Je rappelle notre numéro de téléphone qui est le 514-495-2597. Je prendrai Boulkassem sur la 3. Bonsoir Boulkassem.
Bonsoir l'année, bonsoir à votre invité Karim, un coucou aux auditrices et aux auditeurs. J'ai quelques questions à poser à votre invité.
Madame Bouzard, oui.
Bouzard, oui. C'est que chaque fois qu'il y a un événement électoral en France, l'islam est stigmatisé, on l'a dit il y a des années, et c'est la réalité. Mais ce qui m'a choqué, moi, les interventions du ministre de l'Intérieur française qui parle beaucoup, il a dit que c'est trop beaucoup de musulmans, donc je crois qu'il parle du côté démographique, comme Israël veut refuser les réfugiés palestiniens du retour parce qu'ils sont en nombreux, donc c'est vraiment, c'est grave à la démocratie et aux droits fondamentaux des Français. Et je pose une autre question à Madame Bouzard. Est-ce que, puisque c'est la deuxième religion en France, l'islam est la deuxième religion en France, est-ce que la première religion est traitée comme l'islam en France? Et merci, et bon courage pour vos luttes, Madame.
Oui, merci.
Merci beaucoup, Boulkassem.
Merci.
On a effectivement besoin de courage en ce moment. Alors, pour les catholiques, les catholiques qui restent, qui existent encore en France, hein, parce que les églises sont quand même très vides, pour les catholiques qui sont là en France, pour les musulmans, c'est plutôt... alors ça répond pas à votre question directement, mais je vous le dis quand même au passage, sinon je vais oublier. C'est quand même une alliance la plupart du temps. C'est-à-dire que les catholiques voient pas, enfin, ont plutôt tendance à être un trait d'union relation entre les musulmans pratiquants et le reste de la société, à essayer de faire trait d'union, en même temps accompagner les musulmans, en même temps faire des sessions pour enlever les peurs sur l'islam. C'est plutôt cette dynamique-là.
Et c'est le cas des filles voilées qui ont été rejetées par l'école publique, qui sont allées dans des écoles catholiques pour intégrer l'école.
Les musulmans font la queue dans les écoles catholiques pour inscrire leurs enfants parce que il n'y a pas d'islamophobie, beaucoup moins. Il y a plus de connaissances, tout simplement. Il n'y a pas de représentation négative. Ils sont pas mis dans des voies de garage. Ils sont respectés. On les voit pas comme des sauvages incivilisés. Bon, donc ça c'est clair. Alors, est-ce que les catholiques sont traités de la même façon que les musulmans? Mais non, mais ça se présente pas de la même façon parce que déjà les catholiques, ils ont tellement appris à raser les murs, à être très discrets, pour le dire de manière un peu plus intellectuelle, avec le temps, qu'ils ont quand même pris des réflexes de discrétion. C'est vrai qu'ils sont moins visibles, leur pratique est moins visible. Là où on pourrait comparer plutôt, c'est les juifs. C'est-à-dire que ce qu'on tolérait à un moment donné, par exemple, avec la kippa dans les entreprises, du moment où il y a eu une pression, la loi permet de porter le foulard en entreprise si ça n'entrave pas les missions. Donc normalement, c'est la liberté religieuse en entreprise. Je dis bien normalement, c'est-à-dire la loi, le code du travail. Bon, mais comme dans les pratiques, il y a eu une discrimination sur le foulard au sein des entreprises, il y a eu la même discrimination sur la kippa parce que ils ont dit aux juifs, écoutez, vous comprenez bien, avant on tolérait votre kippa, ou bien même dans les écoles, avant la loi, on tolérait la kippa, mais vous comprenez bien, là pour interdire le foulard, on est bien obligé de vous interdire la kippa. Donc c'est plutôt les juifs qui du coup, ce qu'on leur tolérait, ils y ont perdu. Et alors certains par contre du coup en veulent aux musulmans en disant mais vous avez trop ouvert votre bouche et puis voilà maintenant
on a perdu les acquis.
Oui.
Je vais prendre un autre appel. Alloui, bonsoir monsieur Chérif, tfaddal.
Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs et félicitations à Mme Bouza pour son exposé. Moi je vis aux États-Unis depuis 1967. Ici on n'a pas connu les problèmes que les musulmans connaissent en France, probablement dans toute l'Europe. C'est dommage que la France ait oublié qu'il y a des musulmans qui ont donné leur vie pour libérer la France dans les deux dernières guerres mondiales. On reproche aux musulmans beaucoup de choses, cependant c'est pas de leur faute, c'est à la destruction de l'environnement, c'est pas de la faute des musulmans qu'il y a des épidémies, c'est pas de la faute des musulmans qu'il y a une crise financière mondiale, c'est pas de la faute des musulmans qu'il y a la dévaluation de l'euro, c'est pas de la faute des musulmans qu'il y a le chômage en France et 10% aux États-Unis. C'est pas à cause des musulmans qu'il y a des crises de logement en France, c'est pas à cause des musulmans qu'il y a des problèmes du nucléaire un peu partout.
Mais monsieur Chérif, je saisis l'occasion pour vous poser une question par rapport aux États-Unis. Après, malgré le 11 septembre ou malgré tous les problèmes avec Al-Qaïda, est-ce que la communauté musulmane vit ou a vécu après le 11 septembre des situations difficiles? Et quand je parle de situations difficiles at large, c'est-à-dire que au niveau de l'emploi, au niveau des écoles, au niveau des personnes au sein de la communauté qui portent des signaux religieux, qui peuvent les identifier comme étant des musulmans.
À ma connaissance, moi qui vis depuis 67 aux États-Unis, je traverse les États-Unis du nord au sud, de l'est à l'ouest, et j'ai jamais assisté réellement à quoi que ce soit, une discrimination quelconque. Peut-être, dans certains cas, peut-être au ministère de la Défense aux États-Unis, peut-être que dans des entreprises d'armement, peut-être qu'on pourrait éviter de recruter un musulman, mais tous les musulmans que je connais, moi, en Floride, trouvent du travail facilement. Quand on a un métier, on trouve facilement du travail. On m'a jamais demandé si j'étais musulman aux États-Unis. On m'appelle par mon nom et puis ça s'arrête là. Moi, je pense que depuis une quinzaine d'années, il y a une sorte de révolution. La géopolitique change à travers la planète. Il y a ce qu'on appelle les pays émergents, comme le Brésil, la Chine, les Indes, qui sont en train de contrôler l'économie mondiale. Comme par exemple la Chine actuellement, consomme 45% des matières premières de la planète et les Indes consomment 11% des matières premières de la planète. Alors j'ai l'impression qu'en France, peut-être en Europe, ils sont incapables de se défendre contre cette invasion de l'Asie qui est en train de contrôler l'économie mondiale. On sait qu'aux États-Unis, les plus gros investisseurs aux États-Unis, ce sont les Asiatiques actuellement. J'ai l'impression qu'on recherche un bouc émissaire des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre en France, les problèmes économiques qui deviennent très difficiles à cause justement de ce développement de la Chine, des Indes, de la Corée, etc. Et ce qui se passe en France, ça me paraît, moi, de loin, comme chercher un bouc émissaire pour dire, voilà, ça marche mal chez nous parce que c'est les musulmans. Je ne vois pas une autre explication. Madame Bouzard a très bien expliqué sur le plan anthropologique, sociologique de ce qui se passe avec ce que les musulmans vivent. Je trouve que c'est une horreur que les musulmans soient traités de cette façon en France. Je ne veux pas dire que tous les Français sont racistes, c'est pas vrai. Il y a une minorité de Français qui sont probablement racistes et qui développent leurs théories là, à droite et à gauche. Il y a certaines personnes prises dans les problèmes économiques, pensant que tous les problèmes économiques, tous les problèmes de la misère en France est dû à l'immigration, surtout musulmane.
Mais du coup, vous répondez indirectement au premier auditeur, parce que du coup, j'ai pas répondu directement, effectivement, aux déclarations du ministre de l'Intérieur et puis tous, enfin, je veux dire, c'est hallucinant ce qui peut se dire officiellement. Enfin, je veux dire, on nous aurait dit il y a 5 ans qu'on aurait un gouvernement qui parlerait comme ça officiellement. On a eu un questionnaire sur l'intégration où les deux premières questions c'était est-ce que vous aimez la France pour ses églises, point d'interrogation, est-ce que vous aimez la France pour son bon vin. C'est pas une blague, c'était le questionnaire qui était dans la ligne sur le site du ministre du ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est proprement hallucinant. Donc votre analyse, je la suis complètement. Il y a une crise économique et identitaire qui touche l'Europe et la France est peut-être une loupe grossissante. Mais ce qui est inquiétant, c'est que justement, ce qui n'a pas été réglé au niveau des inconscients sur les questions anciens colonisateurs, anciens colonisés, etc., sous forme de représentations racistes, ça prend une allure normalisée et banalisée qui a largement dépassé l'extrême droite. Donc c'est ça qui nous fait peur, c'est-à-dire que si on fait une analyse des discours politiques, ils reposent tous sur le postulat du Front National à des divers avec un lexique un peu différent, mais ça repose tous sur le même postulat, sur la question de l'islam. Donc ça fait franchement peur, surtout au moment où vous devez voter. Et puis ensuite, l'autre chose qui fait peur, c'est que c'est sous-tendu de laïcité, c'est-à-dire que ça permet aux gens d'être dans le déni des représentations qui viennent de l'histoire, de la mémoire et tout ça, puisque officiellement ils vont dire ah mais on n'est pas du tout raciste, c'est pas du tout parce qu'ils sont d'origine taf taf taf, c'est vraiment l'islam qui ne respecte pas la laïcité. Et ça permet d'asseoir ce discours. Alors même si on en connaît les causes identitaires, économiques, etc., comme vous venez très très bien mieux que moi de le résumer, il n'empêche que ça fait peur parce que ça normalise, ça banalise. Les gens n'ont pas conscience. Enfin, ça, c'est comme une espèce de pieuvre qui se referme, où on a à peine le droit de le dire. C'est-à-dire que, en ce moment, même moi, je pense que je le dirais même plus exactement de cette façon-là en radio ou en télé, parce que je pense que je serais plus réinvitée. On dirait elle fait de la victimisation. Ça y est, elle fait du double discours. Enfin, ça on le dit déjà, mais je veux dire, même de la part d'un certain nombre d'intellectuels en France, on peut pas parler de ça. Et il n'y a que quelques vieux juifs, faut quand même le dire, quelques vieux juifs qui de temps en temps grimacent des dents et nous disent « Oh, ça nous rappelle une sale époque, quand on nous définissait à notre place, quand on pensait à notre place, quand on nous... » Voilà, c'est pour donner l'ambiance. Décidément, je vous donne pas un super moral ce soir.
C'est chez lui, parce que vous êtes encore là ?
Oui, je vous écoute.
Donc, est-ce que vous avez terminé votre intervention ou là d'autres points à ajouter ?
Je voulais dire que pour conclure, j'ai l'impression qu'avec ce changement de la géopolitique à travers le monde, j'ai l'impression que l'Occident, sur le plan économique, a la chiasse. Ils ont peur, ils savent pas comment s'en sortir. Et là, naturellement, il faut trouver des boucs émissaires. Et les boucs émissaires, ce sont toujours les plus faibles de la société. Alors, comme je pense que la société musulmane en France fait partie un peu du prolétariat, c'est-à-dire des gens pas très riches, des gens, des travailleurs.
C'est en train de changer, mais c'est tout doucement.
On veut se vider le cœur sur eux, c'est tout. Oui.
Merci beaucoup, Sichel Fiatek Saha. Et un grand bonjour à la communauté en Floride.
Merci.
Fiatek Saha, notre appel, Nabil, bonsoir.
Bonsoir, salam alaikum.
Alaikum salam, tfadal Nabil.
Salam alaikum.
Alhamdoulilah, c'est Nabil.
Je voulais juste dire que la dame, elle a soulevé des questions très très importantes, très intéressantes même. Et surtout lorsqu'elle parle, en France, les parents ont le rôle des pères. Genre, ils ont fait tout pour enlever l'autorité du père. Et ça, elle est en train de se produire ici. Ici, cette province, on peut l'appeler comme vous voulez, mais c'est une colonie française. C'est un département français, culturellement parlant. C'est très influencé ici. Les dirigeants, ils voient qu'est-ce qui se passe en France et ça se passe automatiquement. Le lendemain, on entend dans la presse ou je sais pas, à la télé, des commentaires de ci, comme ça, la situation, l'actualité en France. Parce que l'xénophobie en France ou l'islamophobie, c'est pas d'aujourd'hui, ça existe depuis longtemps. La question, j'arrive pas à la comprendre, que nos fibles pendant 130 ans, ils nous ont colonisés. Il y avait une vague d'évangélisation de toutes les populations. Ils voulaient déraciner la population algérienne de leur vraie identité. Ils n'ont pas réussi. Et là, il y a une vague d'immigration. Les Algériens, ils sont partis, les Marocains, les Tunisiens, les musulmans, Rahoutim, mais ils ont toujours resté eux-mêmes, malgré les difficultés. C'est sûr qu'il y a des difficultés à certains temps, troisième, quatrième génération. C'est sûr que tu vas dire que je suis musulman, mais tu bois l'alcool et tu fais pas Ramadan, parce qu'à un moment donné... Mais la question que je sais pas... Hadi, c'est pas une guerre, Hadi. Vous pensez que c'est pas une guerre, hein? Je suis pas un prédicateur, je suis pas ni extrémiste, ni l'autre, mais c'est une véritable guerre. Regardez la différence, si tu vois par exemple ici, les francophones, hein, je parle pas,
Nabil, ma prêche le temps, c'est possible, résumé, pour donner l'occasion à Mme Bouza de répondre.
Si vous passez à l'autre côté du Canada, anglophone,
et le problème ne se pose pas.
Le débat n'existe pas.
Aux États-Unis,
publiquement, le président, il déclare, il est contre d'intervenir ou je sais pas, surtout le tenue vestimentaire des femmes.
Merci beaucoup Nabil, reste pas temps, comme ça je pourrais donner l'occasion à Madame Mouzard de répondre. Merci beaucoup. Belaïd, 30 secondes, oui, bonsoir Belaïd.
Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir à la dame.
Bonsoir.
Moi, je vais peut-être un peu surprendre la dame parce que moi, je suis... mes idées sont contrairement à ce que la dame, elle véhicule. Là. Moi, je ne suis pas convaincu d'être musulman. Vous voyez? Si vous voulez avoir, comment on dit, la paix ou alors l'image de l'islam, il faut commencer par faire le ménage chez soi. Ça veut dire que il faut qu'il y ait la paix en Algérie, il faut qu'il y ait un modèle de laïcité en Algérie au lieu d'exiger dans d'autres pays. Il faut qu'on soit ci, il faut qu'on existe de la France, du Québec, de tout. Il faut commencer par faire le ménage chez soi, en Algérie. Il faut arrêter d'égorger les êtres humains. Il faut être ouvert. Il faut accepter les non-religieux. Les églises, ils les ont toutes démolies en Algérie. Et si vous parlez de la laïcité, on va vous égorger tout de suite. Alors, il faut commencer par faire la paix chez nous, puis donner un exemple de bon musulman en Algérie. Après, vous commencerez à aller dispatcher l'islam à travers le monde.
Merci beaucoup, Belaïd. Désolé, parce qu'il reste une minute. Comme ça, je vais la donner l'occasion à notre invité de répondre. Mais le message est passé.
Oui, mais moi,
merci beaucoup, bonsoir.
Je dispatche rien du tout, j'analyse. Mais c'est la différence entre un pays laïque et un pays théologique. Un pays théologique ne respecte pas, veut imposer une norme religieuse. Et normalement, les pays pays démocratique et laïque, justement, apprennent aux gens à respecter toutes les libertés de conscience. C'est une éducation. On peut pas comparer un pays. Moi, je connais pas l'Algérie. Hein. Je suis désolée qu'il s'y passe ça. Ça me paraît pas très musulman, mais mon pays, pour moi, c'est la France.
Mais rapidement, le point de Belaïd, c'est que est-ce que ce qui se passe dans les autres pays ne dérange pas un petit peu?
Oui, mais c'est comme si on comparait la France des rois, où il fallait de la religion du roi pour être sujet du roi, à des pays qui sont pas laïcs. C'est quand même la supériorité de la laïcité que de permettre aux gens d'avoir des visions du monde différentes. Donc on peut pas comparer le Soudan et la France, parce que la France est laïque et le Soudan justement.
Et les gens peut-être ont quitté à cause de ça. Ils ont quitté à cause.
En plus, mais soit on est démocratique et laïque, soit on l'est pas. C'est pour ça qu'en France, on s'est battu pour la laïcité.
En 5 secondes, très difficile. Est-ce que vous pensez que la communauté maghrébine musulmane pourra éviter les problèmes au Québec?
Il faut c'est la transpiration humaine, c'est être ensemble, faire les choses ensemble qui fait avancer